L'Hebdo Patrimoine, l'émission dédiée aux professionnels de la finance sur Radio Patrimoine, présentée par Fabrice Costet.
Bonjour, bienvenue à tous, bienvenue sur Radio Patrimoine pour ce nouveau numéro de l'Hebdo. Radio Patrimoine, je vous rappelle que c'est la première web radio 100% dédiée au patrimoine, à nos amis conseillers en gestion de patrimoine, aux professionnels de la finance et d'une manière générale à tous ceux qui s'intéressent à leur épargne et à l'investissement. Chaque semaine, on décrypte ensemble l'actualité économique, financière, parfois immobilière, et on va sur le terrain du droit cette semaine, puisqu'on va s'intéresser au droit de succession. Alors pourquoi ce thème ? C'est d'actualité, on a des élections présidentielles, figurez-vous, dans quelques semaines, ça arrive, chacun y va de son commentaire, de sa proposition, en tout cas, alors lesquels seront les plus chocs, seront les retenus. D'ailleurs, quelle est l'histoire de droit de succession en France ? Comment ça se passe à l'étranger ? Est-ce qu'on peut comparer ? Eh bien, c'est ce que nous allons découvrir avec l'ensemble de nos invités, nos deux experts du jour. Julien Serraki, bonjour.
Bonjour.
Le président de la SNCGP, bienvenue, habitué de ce micro désormais. Et un petit nouveau, en tout cas l'antenne de Radio Patrimoine, c'est Jérôme Russac. Bonjour Jérôme.
Bonjour.
Le président de L&A Finance, qu'on ne connaît pas encore. Alors L&A Finance, petite présentation rapide.
Nous sommes un cabinet de gestion de patrimoine, essentiellement sur Paris. Voilà, et on conseille des investisseurs sur toute la France aujourd'hui.
D'accord. Alors, un cabinet assez conséquent quand même. Combien de collaborateurs ?
Une centaine de conseillers.
Voilà, d'accord, très bien. Et CNCGP, une des quatre associations.
Exactement, 1800 personnes morales, plus de 3000 adhérents. On prépare la réforme du courtage qui arrive dans les semaines qui viennent. Tout va bien du côté de la CNCGP comme toujours.
Voilà, en tout cas, voilà pour le sommaire. On démarre tout de suite notre Hebdo Patrimoine spécial droit de succession.
L'Hebdo Patrimoine, l'émission dédiée aux professionnels de la finance sur Radio Patrimoine.
L'héritage, les droits de succession, c'est un thème hautement sensible, on le sait. Hein, tous les candidats y vont de leur proposition, bien évidemment. Julien, on démarre avec vous. C'est vrai que c'est une brique fondamentale du patrimoine. Hein, quand on rencontre, comme vous le faites, ou comme vos adhérents le font, les clients, on va leur parler, bien évidemment, de leur projet, de leur futur et évidemment de cette... En général, on a des parents, on est parents soi-même, donc la succession, c'est très important, d'autant que c'est assez lourdement fiscalisé en France.
Oui, tout à fait. Dans toute stratégie patrimoniale se pose un jour la question de la transmission, que ce soit une transmission en cas de vie ou une transmission en cas de décès. On a la chance en France d'avoir en plus une fiscalité sur la donation et une fiscalité sur la succession qui sont à peu près les mêmes. On va dire ça en tout cas simplement, en tout cas des abattements qui sont à peu près les mêmes. La loi est faite pour anticiper la transmission, donc plutôt pour faire des donations plutôt que d'attendre la succession et de ne rien faire. Mais évidemment, il faut se préparer, il ne faut pas attendre. Les problématiques qu'on rencontre sont des gens qui attendent trop tard, généralement, pour organiser leur transmission ou malheureusement qui ne sont plus là pour le faire. Et c'est les héritiers qui viennent nous voir en nous demandant si on peut faire quelque chose. Et évidemment, à ce moment-là, on ne peut plus rien faire.
C'est vrai que ce sont des choses, Jérôme Russac, qu'on organise mal, on le repousse peut-être, on n'a pas forcément envie d'y penser, de faire son testament, tout ça.
C'est exactement ça. Après, il y a un petit manque de culture de la part des Français. Ils sont assez peu sensibles aux sujets financiers de manière générale. Et parler de sa propre succession, de sa propre mort, c'est jamais simple. Mais on travaille à ce que les gens anticipent et aillent sur plus de donations plutôt que de subir une succession, effectivement.
Bien sûr, d'autant qu'il y a le patrimoine qu'on peut accumuler en tant qu'individu, mais il y a aussi des patrimoines personnes morales. C'est-à-dire quand on est chef d'entreprise, et il y en a beaucoup, on sait d'ailleurs qu'on est dans un papy-boom. En tout cas, dans les 10 prochaines années, il y aura énormément de boomers qui vont léguer leur entreprise, ou la céder, bien évidemment, mais ça devient un sujet extrêmement sensible.
Alors clairement, il y a des lois qui facilitent aussi, qui peuvent accélérer les donations, les transmissions de son vivant, mais il va y avoir des gros sujets. C'est là où nous, les conseillers en gestion de patrimoine, on accompagne nos clients avec, comme vous l'avez cité tout à l'heure, des notaires et des fiscalistes.
Donc du coup, l'idée, c'est de le faire le plus en amont possible de sensibiliser ses clients à cet aspect.
Oui, tout à fait. Le faire le plus en amont possible à partir du moment où sa cellule familiale est stabilisée. Si vous avez 32 ans, que vous venez d'avoir un premier enfant, c'est pas le moment de vous poser la question de la transmission parce que vous savez pas si vous allez avoir 2, 3, 4 enfants et vous connaissez pas réellement l'ampleur de votre patrimoine. Autour de 40 ans, entre 40 et 50, moi je dis tiens, c'est intéressant de commencer à se poser des questions, à se renseigner. Et puis à partir de 50 ans, il faut vraiment commencer à s'organiser.
D'accord, ok. l'horloge tourne aussi. On en fait un petit peu quand même d'organisation. Par exemple, l'assurance vie, il y a cette fameuse clause bénéficiaire qui demande déjà à qui, en cas de, voilà, d'accident, on veut transmettre tout ce qu'on met sur son assurance vie.
Oui,
c'est déjà
fait.
Un premier pas.
C'est la stipulation pour autrui. Donc on dit, on va désigner comme bénéficiaire du contrat qui on veut. Ça, c'est la spécificité de l'assurance vie, c'est que dans la transmission successorale classique, testamentaire, on va dire, ou en tout cas qui s'active au moment du décès, eh bien, on a la ligne directe entre frères et sœurs, et puis ensuite, on appelle les collatéraux quatrième degré et les tiers, c'est-à-dire des gens qui sont relativement éloignés. Donc, on est toujours un peu dans le cadre familial. Et quand on n'est pas dans le cadre familial, une question très élevée qui monte jusqu'à 60%. Dans l'assurance vie, on vous dit le taux que les bénéficiaires que vous allez désigner vont payer ne dépend pas de votre lien familial. Vous désignez qui vous voulez. D'ailleurs, certains clients désignent même parfois des associations comme bénéficiaires de contrats d'assurance vie. Donc vous voyez que ce n'est pas la même chose que les droits de succession.
Bon, c'est peut-être pas la majorité. Est-ce que c'est une des demandes que vous avez c'est, comme je disais, une première brique, Jérôme Mussac, là, cette clause bénéficiaire de l'assurance vie.
Non, malheureusement, je reviens sur le sujet que j'évoquais précédemment, la question de culture. Pendant des années, on parlait à nos clients d'assurance vie, mais on leur parlait essentiellement de fonds euros qui étaient rentables. On leur parlait de fiscalité, notamment l'impôt sur le revenu.
Ouais, c'était il y a longtemps,
les
fonds euros rentables. C'est 2-3 ans que là, c'est compliqué. Quoi.
Effectivement. Et puis, avec la flat tax et finalement le lissage à un taux d'impôt sur le revenu à 30%, on s'est rendu compte que la notion de succession était quelque chose d'important dans les contrats d'assurance vie, et ça a remis au premier plan cette particularité de l'assurance vie qui est une forme de paradis fiscal pour les droits de succession. Ouais. Alors bien sûr, on peut privilégier ses enfants, ses lignes directes, mais on peut aller chercher d'autres sujets qui ont des donations jusqu'à, on va dire, 152 000 euros en franchise de droit, et c'est pas inintéressant.
Ce qui est déjà pas si mal.
Fabrice, juste une chose, rappelons que jusqu'à octobre 98, tout ce qu'on plaçait en assurance vie était complètement exonéré de droits de succession si on avait moins de 70 ans. Enfin, c'était là, pour le coup, un vrai paradis fiscal. On pouvait mettre des sommes considérables en assurance vie.
Plusieurs millions.
Il n'y avait pas de plafond, il n'y avait pas de limite. On pouvait mettre la somme qu'on voulait et elle était entièrement exonérée.
Mais alors, c'était très déséquilibré par rapport à, justement, vous l'évoquiez, suivant la ligne directe, c'est si on transmet directement à ses enfants, à ses petits-enfants, à ses neveux, ses nièces, ou si on n'a pas d'héritier, là, c'est vrai que ça devient, certains disent, punitif, ces droits de succession. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pouvez nous rappeler, en grande masse, là, qu'est-ce que... Les taux pratiqués.
Oui, on va parler... quand on parle de droit de succession, il faut parler de plusieurs choses. Parler de l'abattement, le montant de l'abattement. Combien de temps on met à le récupérer, cet abattement? Et puis, évidemment, parler des taux, et notamment du taux marginal, du taux le plus élevé. Je vais parler que de la ligne directe, pour ne pas faire une liste à la Prévert. En France, chaque enfant sur l'héritage de ses parents a 100 000 euros d'abattement. À partir du moment où il n'a pas reçu une donation du même montant dans les 15 dernières années. C'est pour ça que je dis qu'il y a un renouvellement. Et puis, ce taux, il va monter jusqu'à 45% quand on dépasse 1 700 000 euros. Je vous donne un exemple, parce qu'il faut se comparer à ce que font les autres pays européens. Moi, je n'ai pas de position morale sur les droits de succession. J'ai une position pragmatique. Je crois qu'il faut dépolitiser le débat. Je crois qu'on parlera tout à l'heure des différents programmes de ceux qui se présentent à la présidentielle. Et on verra que, très classiquement, à gauche, on veut plus taxer, à droite, on veut moins taxer. Et on est dans la politique, là. On est dans l'idéologie, on n'est pas du tout dans le pragmatisme. Donc, moi, ce que j'aimerais, c'est le souhait que je fais au président de la République, au prochain président de la République ou prochaine présidente de la République, c'est qu'il dépolitise ce débat-là. En Allemagne, on est à 30% de taux marginal, je rappelle 45% en France, au-dessus de 26 millions d'euros.
D'accord.
Comparativement à 1,7 million en France. 26 millions pour arriver à 30% en Allemagne. Chez nous, c'est 1,7 million, on est déjà à 45 millions. On est déjà à 45%. Les pays nordiques, qui sont réputés pour être les pays de social-démocratie, les pays avec un État-providence important, les pays où il y a des taxes qui sont très importantes, et ben sur les droits de succession, ils n'ont pas du tout pris la même optique que nous. En Suède ou en Norvège, les droits de succession n'existent pas.
Pas du tout.
Pas du tout, il n'y en a pas. D'autres pays qui ne sont pas connus pour être des pays de droite, Portugal, pas de droits de succession. Italie, 4% droits de succession.
Flat tax.
Flat tax.
D'accord.
Quel que soit le montant. Espagne, alors quand vous êtes à 4%, si vous voulez faire de la progressivité, ça n'a pas vraiment ça n'a pas vraiment d'utilité. Espagne, il y a une progressivité, mais ça monte au maximum à 20%.
Est-ce qu'on est le vilain petit canard de l'Europe à vous entendre?
On n'est pas le vilain petit canard de l'Europe, on est le vilain petit canard du monde.
Ah, carrément.
Il faut avoir ça en tête. Mm-hmm. Il y a quelques pays asiatiques, Japon, Corée, où il y a des taux qui sont plus importants que ça, qui sont autour de 50%. Mais c'est des pays où, par exemple, les capacités de donation sont bien plus élevées. Donc, en fait, on fait des droits de succession qui sont très élevés, parce que derrière, les droits de donation sont faibles et donc on incite les gens à donner.
Jérôme Roussac, c'est vrai qu'on a le sentiment aussi que ça a été quand même assoupli, ces droits de donation, 152 500 euros tous les 10 ans.
100 000.
100 000, c'est tout? Ah bon,
152 000, c'était il y a 10 ans.
Ah, bon, ça a diminué. C'est vrai que c'est un peu étonnant quand on se compare comme ça à nos voisins européens. Bon, comment on fait là? On ne va pas tous s'expatrier en fin de vie quand même, si les pays cités ont l'air plutôt sympathiques.
Je ne crois pas à l'expatriation. Et après, il faut recontextualiser. Mon camarade parlait de sujets éminemment politiques. Quand on lit le rapport de l'OCDE, et il parlait également de pragmatisme, l'OCDE est très clair, elle dit au sortir de la crise Covid, les caisses des États sont vides, il va falloir trouver un moyen de les remplir. Et un des sujets, c'est d'aller chercher plus de droits de succession. D'accord. Alors effectivement, je confirme qu'en France, au-delà de la Corée et du Japon, on est les numéro 1 en perception de droits de succession. Et si on élargit à l'impôt sur le revenu, on est déjà les numéro 1, on est champion mondial des impôts en France. Donc c'est un vaste sujet sur lequel le vrai problème, parce que c'est un problème de société, on se rend compte par exemple qu'en France, parce qu'on stigmatise souvent les gens qui ont de l'argent, donc du patrimoine, les riches. Et en France, par exemple, il y a beaucoup moins de moyennes, ce qu'on appelle de moyennes entreprises par rapport à l'Angleterre, notamment l'Allemagne, voire même l'Italie. Et pourquoi? Parce qu'on n'incite pas les gens. On parlait d'American Dream quand on était jeune par rapport aux USA. Et en France, il n'y a plus de French Dream, de moins en moins. Et les gens ne veulent plus de s'enrichir. Et donc, parce qu'ils ont peur d'avoir l'IFI, ils ont peur d'avoir de l'impôt sur le revenu, puis un jour l'impôt sur les successions. Je faisais un calcul ce matin. Si vous achetez une résidence principale qui coûte, on va dire, 500 000 euros pour un Français moyen, entre les droits de succession d'à peu près 10%, la taxe foncière d'à peu près 10% sur une durée de 25 ans, vous avez déjà payé 20% de taxes. Et si à la fin de votre vie, vous donnez ces 500 000 euros à vos enfants, que vous avez en moyenne 20%, vous avez déjà payé 40% de droits sur ces 500 000, tout cumulé. Donc c'est énorme. Donc c'est ça le vrai sujet. Donc c'est pas facile parce que, effectivement, ça va nécessairement être un sujet de société, nécessairement être un sujet de politique. Mais si la pression, il y a une forme de tenaille qui est mise en place par l'État, et l'État va chercher de l'argent, et le sujet des droits de succession va pas être un gros sujet avant les élections, parce qu'on va nous dire qu'ils vont chercher à les alléger, mais je pense que la fin de l'année va être plus complexe que cela.
Voilà, il y aura beaucoup de promesses, mais on va voir ça dans un instant, on va voir le détail, effectivement, des propositions des candidats. Je vous propose de faire une première pause musicale après ce panorama des droits de succession, et on attaque les propositions des candidats, c'est dans un instant.
Just one of my kind. If you fall someday, you will always have someone. You are just one to be held. If you see no light, you will always find a friend. 'Cause we don't talk about it, but you know that there is something.
Carry on, this I have to say. Maybe I'm
On vient d'écouter Jody Coste, Anytime, sur Radio Patrimoine.
L'Hebdo Patrimoine, l'émission dédiée aux professionnels de la finance, sur Radio Patrimoine.
Un hebdo patrimoine spécial droit de succession ce vendredi avec nos invités Julien Serraki, président de la CNCGP, et Jérôme Russac, président de L&A Finance. Messieurs, on a fait un panorama global voilà, de ces droits de succession hein, qui sont régulièrement... On en reparle en tout cas tous les 5 ans, on va le voir dans un instant avec les propositions des candidats. Juste auparavant, Julien, un petit rappel historique de quand c'est que ça s'est mis en place ces droits de succession. Quel est l'historique? Comment ça a évolué?
L'histoire des droits de succession, elle est assez intéressante parce qu'elle montre que jusqu'à un passé très récent, ça n'a jamais été une question idéologique, mais toujours une question pragmatique. Les droits de succession, ils ont été inventés par les révolutionnaires en 1791. Évidemment, ça participait à la redistribution des richesses des nobles et des terres des nobles au peuple. Et ils ont donc inventé les droits de succession. Et alors, c'est assez étonnant, on pourrait croire qu'ils ont mis un taux extrêmement élevé. Bah, pas du tout. Ils ont mis un taux de 1%. En 1791, les droits de succession, quand ils ont été inventés, c'était 1% seulement.
D'accord, donc c'était révolutionnaire, mais c'était finalement assez...
45 fois inférieur à ce qu'on a aujourd'hui. Et puis ce taux de 1%, il est resté tel quel jusqu'à la fin du 19e siècle, où il est passé en 1901 à 2,5%. Donc là aussi, une augmentation est quand même assez mesurée. Et puis à la fin de la Première Guerre mondiale, en 1920, évidemment, la France avait accumulé des dettes importantes. Et donc, on l'avait passé à 40%. Donc là, pendant un délai assez court, il a été passé à 40%. Et après, il s'est maintenu autour de 15%, une fois qu'il est redescendu de 40 à 15. Et c'est resté comme ça jusqu'en 1980. Et en 1981, lorsque Mitterrand est arrivé au pouvoir, ils sont passés à 40% et depuis, ils ne sont jamais redescendus en dessous des 40%. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'en gros, de l'invention des droits de succession jusqu'à 1981, c'est une simple question pragmatique. Est-ce qu'on a besoin de faire rentrer de l'argent ou pas? Et à partir de 1981, ça devient une question idéologique. Parce qu'en 1981, je rappelle que la dette de la France se situe autour de 20%.
Ouais, ce qui est pas
exceptionnel. Il n'y a pas de difficulté à financer quoi que ce soit. Et donc ça devient une question idéologique. Et depuis 1981, c'est resté une question idéologique. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est aussi, quelques années plus tard, va voir arriver l'ISF. Et l'ISF est aussi resté une question idéologique. C'est-à-dire que ces impôts, au lieu de se poser des questions pragmatiques, est-ce qu'ils atteignent leur objectif de redistribution des richesses et puis de compétitivité du pays par rapport à ses voisins? Les questions pragmatiques, on ne se pose pas ces questions en ce terme-là. On se pose des questions en termes idéologiques. Faut-il ou non taper sur les riches?
Ouais. Et voilà, et nos candidats sont assez prudents.
Allez-y, oui, c'est un sujet. En fait, on aborde le sujet de l'égalité des chances uniquement par l'égalité des patrimoines, hein, ce que disait mon camarade. Et du coup, plutôt que d'avoir tout le monde riche en percevant beaucoup d'impôts en France, on essaie de garder tout le monde pauvre. Et c'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet. C'est un sujet d'égalité des chances au départ, sur la ligne de départ, cette notion de patrimoine.
Ouais, oui, effectivement. Alors, les candidats, ils sont quand même. Ils ont tous évidemment quelque chose à dire sur le sujet. L'héritage, un terme très, très sensible hein, qui s'impose à chaque fois, en tout cas au fil des campagnes présidentielles. Mais ils restent prudents, les candidats à la magistrature suprême, puisqu'ils savent que les Français regardent quand même d'un mauvais œil les droits de succession. 8 personnes sur 10 sont favorables à une baisse de cet impôt, selon un sondage récemment réalisé pour les Échos publié en janvier. Une large majorité, alors que près de la moitié des Français surestiment cette fiscalité, ils pensent qu'un enfant qui reçoit 90 000 euros de ses parents devra s'acquitter de droits de mutation, comme il convient de les appeler. C'est oublié. Donc l'abattement, on en a parlé, de 100 000 euros, auquel on peut ajouter 31 865 euros de donations en liquide. L'abattement Sarkozy, renouvelable tous les 15 ans et cumulable, on le disait tout à l'heure, avec l'assurance vie.
Fabrice, il y a quelque chose de très intéressant dans ce que vous venez de dire. 8 Français sur 10, 80% des Français pensent qu'il faut réduire les droits de succession. Il n'y a que 20% des Français qui payent des droits de succession. C'est étonnant, hein, parce que vous voyez, là, on est dans un impôt en fait qui touche quelque chose qui touche peu de gens, mais qui a un aspect sentimental en fait. C'est-à-dire que les gens se disent, je vais transmettre à mes enfants. Donc on est dans l'émotionnel pur. Et puis, il n'y a pas de raison que finalement le patrimoine que j'ai réussi à accumuler toute ma vie, sur lequel j'ai payé des impôts, on me demande au moment où je vais le transmettre à mes enfants de payer à nouveau des impôts. Et c'est en ça qu'il est particulier, qu'ils sont particuliers, les droits de succession, c'est parce qu'il y a un aspect émotionnel qui est important et qu'on retrouvait d'ailleurs quand l'ISF existait. Quand on interrogeait les gens qui payaient l'ISF, ce n'était pas le montant qui les énervait le plus, c'était le fait de payer sur un patrimoine constitué qui avait déjà payé l'impôt.
Sur un patrimoine net-net, finalement. Exactement. On a l'impression qu'on est de nouveau prélevé. On sait que c'est quand même compliqué. Alors, le français est fourmi. Hein. C'est vrai que dans les chiffres d'épargne, les statistiques, c'est vrai qu'on on a un très, très fort taux d'épargne. Mais c'est vrai qu'on a ce bas de laine. On n'a pas forcément envie qu'il soit encore ratiboisé, on va dire, une nouvelle fois. Alors, globalement...
On parlait tout à l'heure des différences entre les pays. Il y a beaucoup de pays où la résidence principale est exclue des droits de succession.
Ouais,
parce qu'on estime que la résidence principale, c'est là où vivaient les parents et qu'on ne va pas demander aux enfants de vendre l'appartement ou la maison dans laquelle vivaient leurs parents pour payer des droits, ce qui peut sembler quand même assez cohérent.
Pour 50% des Français, le montant transmis, c'est moins de 70 000 euros. Donc on parle de montants qui sont relativement faibles, finalement. Donc l'enjeu est minime. Moi, je voudrais revenir aussi sur... on parlait tout à l'heure des taux et de la progressivité de cet impôt. Et finalement, il est calculé sur le montant qui va être transmis et non pas sur les personnes qui vont recevoir. Et c'est également une forme d'injustice sur laquelle personne n'a réfléchi aujourd'hui, parce que s'il y a 1 million d'euros à séparer entre deux enfants, ils vont recevoir chacun 500 000. Mais si un des enfants est lui-même déjà milliardaire et que l'autre est SDF, ils vont payer la même somme d'impôts. Et il y a aussi une forme d'injustice par rapport à ça. Il y a beaucoup de sujets de réflexion qui n'ont pas été abordés par les candidats. On va y revenir. Mais c'est vraiment lié au patrimoine qui est transmis, alors qu'on incite les Français et de plus en plus, il y a des lois récentes, il y a les lois fiscales, il y a le PER dans la loi PAC qui a été mis en place. On incite les Français à se créer du patrimoine, à mettre de l'argent de côté pour pouvoir subvenir à leurs besoins de plus en plus. On a vu le phénomène des gilets jaunes et des retraites il y a 2-3 ans. Et puis finalement, ce patrimoine qu'ils ont accumulé, on va à nouveau leur taxer.
On anticipe parce qu'on pense que peut-être la retraite, ça sera pas tout à fait ça, quoi. Avec un actif bientôt pour un retraité, ça risque d'être compliqué.
Et là, vous venez de parler de démographie. Mais on peut appliquer ça aussi au droit de succession. Les gens font de moins en moins d'enfants, donc les successions en ligne directe qui ont les taux les plus faibles, les plus faibles qu'on a à 45%, c'est difficile de le dire, mais c'est le cas en France en tout cas, c'est-à-dire qu'on va avoir de plus en plus de successions au taux maximum du maximum, qui est les successions entre tiers, qui est de 60%. 60%, c'est quand même un taux d'imposition qui semble démentiel quand on y pense.
Confiscatoire,
tout à fait.
Alors justement, tiens, on s'intéresse aux propositions. On va parcourir le panel. On commence avec la candidate PS, Anne Hidalgo, ce qu'elle dit. Il n'y aura pas de droit de succession au-dessous de 300 000 euros. Rien à payer pour 95% des Français. En revanche, nous augmenterons les impôts des successions pour les très hauts patrimoines. Voilà, première chose, donc on le disait, 90 000 pour une grande majorité, 300 000 euros, ça pourrait être pas mal. Yannick Jadot, tout ce qui nous fait du bien sera moins taxé, ce qui nous fait du mal sera plus taxé. Donc là, on est dans l'idéologie. Maintenir l'abattement de 100 000 euros entre parents et enfants, supprimer le délai de 15 ans entre deux donations. Et tiens, on reparle d'impôt sur la fortune. Marine Le Pen, RN, je souhaite qu'on puisse mettre en place des droits de dotation exonérés d'impôts qui soient égaux entre les grands-parents et les petits-enfants et les parents et les enfants. Bon, pourquoi pas. Créer une exonération spécifique. Là, on retrouve 300 000 euros. Voilà, sur la transpassion des biens, attention, immobilier.
Je vais vous dire, je suis loin d'être favorable à Marine Le Pen, mais pour le coup, c'est pas idiot.
Oui.
Pour le coup, c'est pas idiot.
Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que démographie encore, ou plutôt grand bien nous fasse, on vit de plus en plus longtemps. Quand on hérite à 65 ans, parce que les parents ont 90 ans, ils partent, en fait, ça peut carrément sauter une génération.
Exactement, on a le droit.
C'est ce qui se fait de plus en plus.
Oui, de plus en plus on peut, si on s'organise, et c'est là où l'intérêt d'anticiper.
Et c'est ce qu'on voit beaucoup dans les clauses bénéficiaires des contrats d'assurance vie, c'est-à-dire qu'on finalement, on enlève les enfants, on met les petits-enfants.
Attendez, Jérôme, expliquez-nous, que ça s'organise, c'est-à-dire que ça se prépare, les grands-parents doivent organiser ça pour...
Exactement. On peut, entre guillemets, refuser de recevoir en ligne directe le patrimoine et de prioriser ses enfants, déjà pour économiser des droits, et parce que quand on a 65 ans et qu'on a déjà abouti sa vie, qu'on a déjà son propre patrimoine, on va directement aider ses petits-enfants à démarrer dans la vie et à organiser l'achat de sa résidence principale ou d'autres sujets. Comme on saute une génération, il y a une économie de droits aussi, c'est un vrai sujet de réflexion.
C'est Valérie Pécresse qui dit qu'il faut l'augmenter sur les tranches les plus importantes, sur les revenus, sur les patrimoines les plus élevés, c'est ça ?
Alors elle dit, je veux un choc de transmission. 95% des Français ne paient plus de droits de succession. Ça, c'était fin janvier 2022. En pratique, ce qu'elle propose, réduire la durée de renouvellement de l'abattement de 15 ans à 6 ans. Pour les donations en ligne directe, jusqu'au deuxième degré,
Sarkozy,
enfants ou petits-enfants. Ah, il y a une filiation. augmenter les abonnements pour les donations aux petits-enfants jusqu'à 100 000 euros entre frères et sœurs, de 15, à peu près 16 000 aujourd'hui, 16 000 euros à 50 000, et entre neveux et nièces, aux neveux et aux nièces, à 50 000 euros, et porter à 100 000 euros l'abattement pour certaines successions en ligne indirecte.
D'accord. Voilà. Donc elle augmente toutes les formes d'abattement, ce qui est une bonne chose. Pourquoi j'étais un peu surpris, j'ai cru que vous aviez dit qu'elle voulait augmenter les taux sur les patrimoines les plus élevés. J'étais un peu surpris parce que, comme je le disais, faut sortir de cette question idéologique, faut regarder ce qui se fait chez nos voisins. Chez nos voisins, les tranches les plus élevées sont, un, beaucoup plus faibles, et deux, se déclenchent à partir des niveaux de patrimoine beaucoup plus importants. Je rappelle ce que j'ai donné, l'exemple allemand, 26 millions pour déclencher la tranche la plus importante et 30% au lieu de 45% en France. Donc, faut regarder ce qui se fait autour de nous, tout simplement. Je dis, faut pas faire de l'idéologie, regarder ce qui se fait autour de nous, s'aligner là-dessus. Il n'y a pas de raison qu'en France, on paye plus de droits de succession qu'en Allemagne, que d'un côté du Rhin ou de l'autre, il y a de telles différences. Moi, je ne comprends pas pourquoi. Et surtout que l'exemple allemand se situe dans la moyenne européenne, en fait. En tout cas, sur le taux de 30%, on voit qu'on le retrouve dans beaucoup de pays européens. Alors, il y a des pays qui ne taxent pas, certes, mais ceux qui taxent, 25-30%, c'est des taux marginaux qu'on retrouve vraiment quasi systématiquement.
On est loin d'une harmonisation européenne, une fois de plus, sur ces sujets.
Clairement.
On parlait de millions. Alors, il y en a un qui parle directement en millions, c'est Jean-Luc Mélenchon, France Insoumise. Au-delà de 12 millions, je prends tout. Si vous n'avez pas 12 millions d'euros d'héritage de prévu, vous ne risquez rien avec moi. Il a déclaré ça au micro d'RTL, c'était début janvier 2022.
Eh bien, apparemment, Robespierre pensait différemment.
on revient sur le sujet que j'ai évoqué tout à l'heure. Ça va faire fuir les entreprises et les entrepreneurs. Et on va rester entre... On va baisser le niveau moyen du patrimoine.
Ou alors, il faut faire des petites entreprises. Faut pas exploser. Là, on n'est plus dans la licorne.
Exactement. Il y a des sujets, parce qu'on parle d'entreprise, il y a des sujets qui peuvent être inspirants. Par exemple, quand on est entrepreneur et qu'on vend son entreprise et qu'on fait une belle plus-value, si on réinvestit 50% de sa plus-value, on peut échapper à la fiscalité. Il y a peut-être des sujets à explorer par rapport au patrimoine aussi, et de dire, alors effectivement, si j'hérite d'un château qui vaut 10 millions, est-ce que je dois être complètement taxé ou pas être taxé? Et si je vendais ce château et que je le réinvestis et que j'aide mon pays à se développer, j'aide des entreprises à avancer, est-ce que je pourrais ne pas être exonéré, peut-être même diffié de droits de succession? Donc il y a peut-être des chemins à explorer qui n'ont pas encore été explorés.
Je rebondis sur ces propos particulièrement pertinents. Il faudrait plutôt distinguer ce qui est productif de ce qui ne l'est pas. Aujourd'hui, il y a heureusement des systèmes qui permettent de transmettre des entreprises avec des droits de succession, des droits de donation qui sont relativement faibles, fort heureusement, parce que si on n'avait pas ces systèmes-là, ce qui se passerait, c'est que le chef d'entreprise, il décède, ou au moment où il part à la retraite, son entreprise a une certaine valeur. S'il la donne à ses enfants, ils sont rapidement dans les droits de succession à 45%. Qu'est-ce qu'il fait ? Il va la vendre à un groupe étranger.
Oui, c'est possible. Ouais.
Non mais c'est ça, c'est une question de souveraineté aussi nationale. C'est une question de souveraineté.
On garde nos actifs en France, évidemment.
Exactement.
Et qu'on trouve les bonnes personnes. Peu de propositions. En tout cas, c'est intéressant. On parle beaucoup de fléchage de l'épargne aujourd'hui et de l'épargne finalement active, qui n'est pas bloquée sur des contrats en euros, qui sont sur des OAT. Donc, la finance active. Là, c'est 50% réinvesti. Ouais. C'est intéressant parce que ça permet finalement d'essaimer, de ruisseler peut-être.
Exactement.
Et de créer d'autres richesses.
Exactement, exactement, d'aller capitaliser. Les entreprises vont avoir de la dette. On parle d'un mur de la dette avec un certain nombre de choses à rembourser parce qu'il y a beaucoup d'aides qui ont été mises en place. Mais peut-être que certaines personnes qui vont hériter d'argent vont pouvoir aussi aller recapitaliser, prendre des participations, aider ce tissu économique et enfin créer nos futurs champions de demain et pas laisser les étrangers venir s'installer en France, comme dit mon camarade.
Il y a un candidat qui parle justement des entreprises familiales, c'est Éric Zemmour, Reconquête. Je propose donc il dit, nous avons des droits de succession trop élevés. Il propose la suppression des droits de transmission pour les entreprises familiales afin de favoriser les PME. Voilà, intéressant. Supprimer les droits de donation et succession pour la transmission d'entreprises familiales. Bon, pas forcément de modalité. Et exonération augmentée à 200 000 euros et renouvelable tous les 10 ans pour les dotations aux enfants et petits-enfants.
Comme je le disais tout à l'heure, si on veut dépolitiser le débat et réfléchir en termes pragmatiques, il faut se demander à quoi sert un impôt. Un impôt sert à redistribuer les richesses et en même temps sert à assurer la compétitivité du pays. Quand vous dites qu'il faut totalement exonérer les entreprises ou ceux qui détiennent des capitaux d'entreprise, ça me semble un petit peu excessif dans cette mouvance-là. Je crois qu'il faut des droits de succession. Moi, je suis pas. J'ai cité tous ces pays qui n'avaient pas de droits de succession. Ça me semble excessif. Alors souvent, c'est des pays qui ont des impôts sur le revenu très importants. Et nous, le problème, c'est qu'on a les deux. On a l'impôt sur le revenu important et les droits de succession importants. Donc, c'est logique dans ces pays, l'interdiction des droits de succession. C'est parce qu'ils se disent, finalement, on met un impôt sur les revenus qui est très important. Donc, les gens, pour constituer un patrimoine, vont payer déjà un impôt important. Donc, on ne va pas en plus les taxer derrière. Donc, il y a une forme de cohérence. Nous, je ne crois pas qu'en France, il y a un aspect quand même culturel à prendre en compte. On soit d'accord pour passer à ce genre de choses-là. Donc, il faut garder des droits de succession. En revanche, il y a des solutions qu'on pourrait adopter très simplement pour exonérer, comme je le disais tout à l'heure, la résidence principale de droits de succession. Je crois que personne ne s'y opposerait. Réduire un peu le taux qui est excessif aujourd'hui à 45%. Valérie Pécresse disait de réduire la durée pour bénéficier à nouveau de l'abattement de 15 ans à 6 ans. Ça, c'est très intéressant. Ça date de Sarkozy. Avant Sarkozy, c'était 10 ans. Et puis, c'est resté 10 ans très longtemps. Et puis, il l'a remis à 6 ans. Enfin, il l'a déplacé à 6 ans. Puis, la crise de 2008 est arrivée.
Il a dû augmenter un petit peu.
Donc, il l'a augmenté à 10. Hollande l'a passé à 15. Et Macron, pour l'instant, ne l'a pas bougé.
Alors, on finit par le président de la République, mais qui n'est pas encore candidat. Donc, il s'est exprimé d'après son ministre de l'économie et des finances, Bruno Le Maire. Alléger la transmission en ligne indirecte, par exemple, à un neveu, un frère. Voilà les propositions. Les taux d'imposition peuvent atteindre 45%. C'est trop. Voilà, je ne fais pas partie de ceux qui pensent qu'il faut augmenter les droits de succession. Bon, c'est pas trop.
Les promesses n'engagent que ceux qui vont les croire pour l'ensemble des candidats qu'on a pu citer. Mais c'est vrai qu'il y a un consensus, à part Mélenchon que vous avez cité. L'idée, c'est vraiment de favoriser les donations de plus en plus jeunes, puisque l'allongement de la durée de la vie, et de réintroduire cet argent dans des circuits économiques pour que ça bénéficie à l'ensemble de la société. Ça, c'est quelque chose d'assez évident.
Bien évidemment.
C'est intéressant, parce que c'est vrai que de la part de on peut presque dire du candidat Emmanuel Macron, plutôt que du président.
Vous avancez, vous avez des infos peut-être.
J'étais au ministère des Finances la semaine dernière, mais j'ai pas eu d'informations. Il y a effectivement ce discours qui est toujours resté le même quand on l'a interrogé sur les droits de succession, qui a toujours été de dire qu'il ne serait pas augmenté. Bon,
on verra. Voilà pour les propositions des candidats. On va faire une deuxième pause musicale, messieurs, assez courte. On revient tout de suite pour parler justement toujours de ce sujet des droits et puis voir peut-être un exemple concret. Voilà, si demain, tiens, je vends mon cabinet en gestion de patrimoine, qu'est-ce qui se passe? Comment je suis taxé si je transmets tout ça? On voit ça dans quelques instants.
To go to sleep when I got you next to me.
On vient d'écouter Dua Lipa, Physical.
L'Hebdo Patrimoine, l'émission dédiée aux professionnels de la finance sur Radio Patrimoine.
On est toujours en compagnie de nos deux experts, Julien Serraki, président de la CNCGP, Jérôme Russac, président de L&A Finance, cabinet de gestion de patrimoine. Messieurs, on parle depuis ce matin des droits de succession. Julien, on peut resituer les montants, parce que c'est vrai qu'on a cité les chiffres assez incroyables, on est champion du monde des droits de succession, mais combien ça rapporte en euros à l'État?
Alors, budget de l'État, je crois que le chiffre est de 12 milliards d'euros. Ça peut sembler beaucoup, mais c'est pas énorme parce que le budget de l'État, il dépasse les 250 milliards d'euros. Donc c'est 3-4% des recettes de l'État, c'est pas des montants en fait qui sont très très importants.
Ouais, c'est pas énorme, alors que on en parle beaucoup, ça fait beaucoup parler. Bon, après c'est pas quand même un impôt complètement délirant comme certains à un moment. Au moins c'est ça peut aider Jérôme Brissac. Il y avait d'autres choses qui étaient moins intéressantes pour qu'on a supprimé.
clairement. Vous m'aviez posé une question juste avant la pause. Est-ce que vous voulez que j'y revienne?
Allez-y.
L'idée, c'était si je voulais transmettre mon entreprise, et je vais élargir le sujet, si je suis entrepreneur et que je veux...
Exactement. Alors, je prenais l'exemple du cabinet en gestion de patrimoine.
Bien
pourquoi
sûr.
Pas parce que, voilà, ça arrive. On a fait on a envie de peut-être de transmettre, de partir à la retraite ou peu importe. Comment ça se passe et comment ça, on va te taxer?
Alors, de la même manière, en termes de stratégie, quand je veux transmettre des choses, il faut anticiper, et la France, sur ça, à quelques sujets, et notamment pour la donation, la succession par rapport aux entreprises, il y a ce qu'on appelle le pacte Dutreil, donc on ne va pas rentrer dans cette technique et dans les détails de ce pacte, mais ça permet vraiment de faciliter, et il avait été notamment mis en place pour les papy boomers, qui puissent accélérer la donation de leur entreprise à leurs enfants, parce que sinon, ils s'accrochaient jusqu'au bout, il y a des abattements qui sont renforcés, donc on peut échapper en grande partie à la fiscalité. Ça a été pointé par l'OCDE, le fameux rapport de l'OCDE qu'on citait précédemment.
Oui.
Ils ont pointé ce pacte Dutreil qu'ils considèrent comme une niche fiscale. Donc après, on est balancé. Si je ne vends pas ou si je ne donne pas à mes enfants, je vais vendre au plus en franc. Et le plus en franc, en ce moment, c'est des étrangers. Donc on est coincé un petit peu dans ces deux sujets-là. Mais aujourd'hui, si on anticipe et qu'on prépare sa succession au travers de ce cadre du pacte Dutreil, on peut faciliter la donation à ses enfants. Encore faut-il que ses enfants aient envie de reprendre l'entreprise.
Voilà, et aussi
un pacte Dutreil fonctionne aussi quand on transmet à ses salariés. Hein. Justement, vous avez évoqué le cas des enfants qui ne veulent pas reprendre l'entreprise. Il ne faut pas que non plus ce soit un sacrifice de reprendre l'entreprise familiale. Fort heureusement, il y a beaucoup d'enfants qui ont envie de faire autre chose que leurs parents. Et le pacte Dutreil prévoit aussi des choses, évidemment, quand on transmet à ses salariés. Il y a une multitude de dispositifs qui répondent à quasiment toutes les situations envisageables. Donc on a
mais tiens, je pense à quelque chose, peut-être un peu plus tragique, on ne le souhaite pas évidemment à nos amis, mais c'est vrai que s'il y a un décès un peu brutal à ce moment-là, comment on organise ça se transmet, le patrimoine,
il y a d'autres systèmes.
Le chef d'entreprise qui est souvent aussi l'employeur. On sait que le tissu, vous le disiez tout à l'heure, par rapport au Mittelstand allemand, les moyennes entreprises, on a beaucoup de petites entreprises, un peu soit unipersonnelles, soit qui reposent sur un seul homme. Quand il casse sa pipe, c'est compliqué.
Bien sûr, c'est là où le chef d'entreprise, au-delà de ses conseillers traditionnels, que sont, on va dire, l'expert comptable et l'avocat fiscaliste, doit aussi avoir un conseiller en gestion de patrimoine, parce qu'à un moment donné, tout ce qu'il crée va se retrouver dans son patrimoine privé, ou il sera dans l'obligation de le céder si malheureusement il décède. Et il y a fort heureusement un certain nombre de décrets ou de lois qu'on peut utiliser. Et on va aller, alors je ne vais pas rentrer dans trop de techniques, mais on peut aller créer des holdings, démembrer un certain nombre de parts, donc lui laisser l'usufruit, donc la capacité de gérer son entreprise, de la développer et d'en faire ce qu'il veut, mais par anticipation sur ses futurs droits de succession, commencer à donner la nue propriété à ses enfants, comme on peut le faire aussi pour une résidence principale. Ouais. On peut donner la nue propriété de ses titres d'entreprise à ses enfants ou à d'autres personnes.
Mais là, vous l'avez compris, ce sont des gens qui préparent leur transmission. Là,
on a le sentiment que c'est un peu la clé, hein, l'anticipation, la préparation.
C'est plus que la clé. Si vous ne préparez rien, si vous n'allez pas voir votre conseiller en gestion de patrimoine pour préparer votre succession, parce que c'est la porte d'entrée, le CGP, il va derrière certainement chapeauter ce que font d'autres spécialistes, les notaires, les avocats fiscalistes, mais le CGP, c'est votre homme de confiance qui a une vue générale sur votre patrimoine, et c'est évidemment la porte d'entrée sur ces questions-là. Hein. Si vous ne préparez rien, il n'y a pas de dispositif. Hein. Droit de succession, point barre.
C'est l'organisation.
Donc c'est
de
l'organisation. Faut pas se retrouver avec un accident de la vie et puis décéder sans avoir rien préparé. Il faut préparer les choses. C'est pour ça que je disais, à partir de 40 ans, il faut commencer à s'occuper de ces sujets-là, même si ça peut paraître assez jeune. Et 50 ans, faut s'activer vraiment.
Bien sûr.
D'accord.
Et sur les sujets liés aux chefs d'entreprise. La mort est un vaste sujet, parce que si on est très endetté, il y a des notions de prévoyance, il y a des notions d'assurance qu'il ne faut absolument pas mépriser pour pas laisser des dettes à ses enfants. Je vais citer une anecdote qui est malheureuse, mais je l'ai lue hier soir. J'ai compris que Madame Tapie, l'épouse de feu Bernard Tapie, se retrouvait avec 300 millions de dettes en héritage et qu'elle était bien sûr ruinée.
Parce que
le sujet a pas été traité avant. Alors lui, c'est un cas très très particulier. Mmh. Je vais pas rentrer dans le détail, mais voilà, il faut
elle hérite de la dette de la CDC finalement.
Oui, pour différentes raisons. Donc, mais voilà, donc quand on est un chef d'entreprise et qu'on développe son business et qu'on prend des risques, qu'on s'endette, on prévoit pas sa mort. C'est impossible de se dire que ça va arriver, et en tout cas on se dit que c'est le plus tard possible. Mais malheureusement, des accidents de la vie, nous on en voit tous les jours. Hein. Et voilà, donc il faut anticiper ça, il faut rencontrer son gestionnaire de patrimoine, il faut mettre des choses en place et que ça se fasse le mieux possible et à moindre frais.
Bon, très bien, on va quand même rester sur une note positive hein, sur ces chefs d'entreprise. C'est vrai qu'ils ont beaucoup de choses à penser. Bon, on pense pas forcément à la toute fin.
Mais ça s'organise très facilement. Hein. C'est ça qu'il faut se dire. Hein.
C'est pas compliqué. Non, rassurant.
C'est pas très compliqué. Les professionnels ont l'habitude de ça. Faire des packs du trait, organiser les choses, ça va pas vous demander un temps fou. Hein. Ça va pas vous empiéter
sur votre travail.
C'est
psychologique. C'est vrai que tous ces sujets, d'anticipation, c'est aussi de se dire, voilà, je ne me dépossède pas. C'est pas parce qu'on met en place ces solutions que ça y est, on est dépossédé de son entreprise. On peut continuer, il y a des garde-fous et des barrières de sécurité, parce qu'il y a cet aspect aussi, même vous évoquez le démembrement, même sur une propriété, c'est un peu difficile parfois.
Alors, ça reste un choix, parce que quand on avance vers un démembrement, c'est que on va commencer à donner des choses à ses enfants, et le retour en arrière peut être complexe, donc ça, c'est un vrai choix, mais voilà, ça évite, et je crois que c'est un vrai poids au moment du décès, et les gens qui ont fait le choix d'anticiper, donc le rôle d'un chef d'entreprise, c'est d'anticiper un certain nombre de situations. Il s'enlève ce poids, il se concentre sur d'autres sujets, et c'est ce qu'ils nous disent tous après avoir mis un certain nombre de choses en place.
Ouais, et puis ça simplifie aussi pour derrière les héritiers, bien évidemment, quand les choses sont cadrées, c'est quand même beaucoup plus simple, surtout quand il y a un gros patrimoine.
Il y a un sujet qu'on n'a pas abordé, mais on est dans une société, on a parlé de l'allongement de la durée de la vie. Aujourd'hui, on est dans des sociétés où avant, on se mariait, on vivait 70 ans avec la même épouse, on avait 2-3 enfants, moyenne 2,2, et les choses étaient simples. Aujourd'hui, on se marie, on fait des enfants, on divorce, on va se remarier, on va refaire des enfants, et ainsi de suite. Et il y a des vrais sujets de donation et de succession et de lisibilité de la filiation et du patrimoine qui ne sont pas simples. Et donc, quand on réfléchit à tout ça et qu'on anticipe, on peut protéger son conjoint, on peut protéger ses enfants qui peuvent être parfois âgés, qui peuvent être parfois plus jeunes. Et donc ça, c'est des sujets qu'il faut poser sur la table et sur lesquels il faut réfléchir.
Bon, maître mot, anticipation. On prévoit et on va voir bien sûr son conseiller en gestion de patrimoine, et on file en chercher un si on n'en a pas encore. Merci messieurs, on arrive au terme de cette édition spéciale droit de succession. Merci à Julien Serraki, président de la CNCGP. C'était un plaisir pour ce bilan historique sur les droits, ce panorama européen. C'était parfait.
Oui, pour le mot de la fin dans mon cas, ce sera de dire qu'il faut dépolitiser le débat, sortir de l'idéologie, s'aligner sur ce qui se fait autour de nous. Et puis
ils vont baisser ces droits de succession après l'élection.
Moi, j'espère que les taux les plus élevés vont baisser parce que ça incite des gens à, j'en vois malheureusement, à quitter notre pays pour ces raisons-là. Quand, vous savez qu'en Suisse, on est à 5, 6, voire 0% et qu'en France, vous êtes
mais ça,
à 45%.
C'est une vraie catastrophe.
Il y a des gens qui partent. Il faut bien comprendre qu'ils ne reviennent jamais et leurs héritiers non plus.
Merci Julien Saraki. Merci également Jérôme Russac, président de LNE Finance, L et A Finance. Voilà, n'hésitez pas à aller le consulter pour tous ces sujets. Cette édition a été concoctée par Sophie Bernard, réalisée par Jason Pignero. On se retrouve, et Théo Benoît en Bourse, on se retrouve dès la semaine prochaine pour un nouveau numéro de l'Hebdo Patrimoine.
L'Hebdo Patrimoine, une émission à réécouter et télécharger sur le site et l'appli Radio Patrimoine et sur toutes les plateformes de streaming.